Oui, merci à tous les deux. Alors, à présent, Mélanie, on va changer de thématique et on va parler de l'alimentation des enfants. Mais attention, la bonne, hein, celle qui leur permet un bon développement, une bonne croissance. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On passe donc dans l'assiette de nos enfants à présent. Et pour regarder précisément ce qui s'y trouve ou pas, malheureusement, il est avec nous en studio. Pas vous, pas malheureusement que vous soyez là, mais malheureusement dans l'assiette de nos enfants. Docteur Jérémy Lafrère, vous êtes docteur en sciences cognitives à l'Institut Paul Bocuse. Bonjour.
Bonjour.
Bon, elle est également en ligne avec nous, c'est Audrey Zucchini. Vous êtes entrepreneuse et l'autrice du livre « La fin des haricots » aux éditions Marabout. Audrey, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, contrairement à ce que l'on pense, c'est dans les pays les plus pauvres où les enfants mangent le plus sainement. C'est dingue, ça.
Oui, alors, en fait, si l'on considère les pays où on peut manger à sa faim, mais effectivement, oui, c'est le cas. Les enfants qui vivent dans les pays les plus pauvres ont un régime alimentaire plus sain que les enfants qui sont issus des pays riches.
Parce que pas de produits transformés, c'est ça ?
Exactement. Nous, en fait, pour l'illustrer, on s'est servi du travail du photographe de Greg Segal, en fait, qu'on a intégré à la fin des haricots, le livre qui sort demain. Et en fait, c'est un photographe qui a demandé aux enfants du monde entier de lister ce qu'ils mangeaient au cours d'une semaine. Mm-hmm. Et puis ces derniers, ensuite, ils ont posé, allongés au sol, entourés des aliments cités. Et en fait, ça donne une image très précise de ce qu'ils mangent. Et ainsi, en fait, on constate que certains enfants qui habitent dans des zones sauvages ou dans des bidonvilles, ils prennent des repas qui sont faits maison à partir d'aliments bruts, locaux, mmh. parce que c'est très bon marché, ou alors ils mangent même le fruit de leur cueillette, de leur pêche, de leur chasse. Et pour eux, la nourriture ultra transformée, mmh. en fait, elle n'existe pas, quoi, parce que c'est un produit de luxe totalement inaccessible.
Alors, dans votre livre, Audrey, on apprend que 380 millions d'enfants dans le monde mangent à leur faim, voire trop. Vous parlez même du fléau de faim insoupçonnée. Ça veut dire quoi, ça ?
Alors ça, c'est un terme, c'est une expression qui est assez paradoxale, hein, mais les enfants qui souffrent de faim insoupçonnée, ils ont une alimentation suffisante au niveau calorique, voire même excessive, mais elle est complètement dénuée des vitamines et des nutriments qui vont être nécessaires au bon développement de l'enfant, hein, le développement physique, intellectuel, le bien-être. C'est une, en fait, c'est une notion qui a été mise en valeur par dans la dernière enquête sur l'alimentation des enfants dans le monde qui a été menée par l'OMS et l'UNICEF. Mm-hmm. Et en fait, aujourd'hui, ça concerne au bas mot 380 millions d'enfants dans le monde. C'est-à-dire que c'est un enfant sur deux de moins de 5 ans est concerné.
Alors, on pense toujours aussi, Audrey, que la malbouffe, ça a pour conséquence le surpoids et l'obésité chez nos enfants, mais pas seulement. Racontez-nous ce que ça peut faire.
Alors, en fait, effectivement, le surpoids et l'obésité, c'est un peu la conséquence visible, évidente. Hein. Ceci étant dit, je voudrais juste revenir une seconde dessus. Hein. C'est une conséquence assez grave parce qu'elle prédispose en fait au développement de maladies comme le diabète de type 2, les troubles du squelette. Elle peut aussi être à l'origine de beaucoup de souffrances psychologiques qu'il faut vraiment pas minimiser dans la vie des enfants. Mm-hmm. Mais effectivement, les carences qui sont liées à la faim insoupçonnée ont des effets qui vont être moins visibles, mais tout aussi délétères. Hein. On va avoir en fait des enfants qui vont souffrir d'un déficit de croissance, qui peuvent souffrir de troubles du comportement, de troubles de la personnalité. Ils vont être de mauvaise humeur, grincheux, ils vont avoir des difficultés d'apprentissage ou des difficultés de concentration à l'école. Mmh. Ils peuvent avoir une immunité altérée, ouais. De la fatigue. Enfin, vraiment, on peut avoir une liste qui est très très longue, ouais. de symptômes. Mais ces affections, elles sont toutes invalidantes. Certaines sont même franchement handicapantes. Et du coup, là, on touche vraiment à la vitalité des enfants.
Alors, docteur Jérémy Lafrère, vous êtes en studio avec nous. On a tendance à oublier d'expliquer à nos enfants à quoi ça sert tout simplement de manger. Qu'est-ce qu'on doit leur dire très concrètement à nos petits ?
Oui, alors c'est un des messages du livre. On a eu tendance à considérer que les comportements alimentaires des enfants, c'était quelque chose d'assez simple, quasi pavlovien, un peu comme ces histoires de comportementalistes. Et en réalité, on s'est aperçu que dès 2-3 ans, les enfants étaient capables de comprendre qu'il fallait manger différents légumes et différents fruits parce que ces différents légumes et ces différents fruits contenaient des petites particules qui avaient des fonctions différentes sur les parties de leur corps. Certaines pouvaient renforcer leurs os pour jouer au foot, d'autres améliorer leur vue. Et certaines tentatives donc d'éducation alimentaire ont capitalisé sur ces connaissances-là, ont essayé de les transmettre aux enfants et ont remarqué que ça induisait des changements vraiment très positifs en termes de choix alimentaires.
Donc très bien, et très clairement leur expliquer les choses, ça fonctionne. On va continuer cet entretien dans un instant sur l'alimentation de nos enfants. Vous allez entendre que notamment le fameux 5 fruits et légumes par jour, eh bien, il est tenable en réalité, mais à condition d'être des parents un peu malins. On va vous donner toutes les meilleures astuces pour y parvenir sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre vie quotidienne, mais également et surtout à cette heure-là, tous les jours, c'est votre santé que l'on chouchoute, et plus particulièrement ce matin, celle de vos enfants. Et pour en parler, deux experts du sujet. D'abord, elle est en ligne avec nous, c'est Audrey Zucchi. Vous êtes entrepreneuse et l'autrice du livre La fin des haricots.
Fin, F-A-I-M, attention.
Ah, évidemment. Et puis le docteur Jérémy Lafrère, docteur en sciences cognitives à l'Institut Paul Bocuse. Alors, docteur Lafrère, quand mon enfant ne souhaite pas manger tel aliment au prétexte qu'il n'aime pas, est-ce qu'il faut le croire? Est-ce que les enfants ont les mêmes goûts que nous, les adultes?
Expliquez-nous. Ma fille, elle dit « je suis allergique aux carottes et je suis allergique aux choux-fleurs ». Mais c'est faux, hein,
ouais, elle n'est pas au chocolat, non, bizarrement.
C'est alors, c'est la grande question, bien sûr. Moi, je travaille particulièrement sur la principale barrière psychologique à la variété alimentaire, ce qu'on appelle la néophobie alimentaire ou la sélectivité alimentaire. En fait, c'est les enfants pénibles à table et qui deviennent pénibles vers 2-3 ans alors qu'ils mangeaient tout auparavant. Mmh. Et on s'aperçoit que c'est un vrai phénomène chez la plupart des enfants et on a toutes les raisons de les croire. C'est-à-dire qu'on parle de phobie, mais ça a été mesuré. C'est-à-dire que c'est vraiment des instants d'angoisse et de peur pour les enfants, ces situations alimentaires. Et tout notre travail, c'est d'expliquer pourquoi ça apparaît à ce moment de leur développement.
Vers 2-3 ans, donc, vous dites. Mais il y en a, ils le gardent adulte, hein, parce que moi, je connais certains adultes toujours allergiques aux épinards,
absolument,
par exemple.
Absolument. Hein, ouais. Des fois, ça passe et des fois, ça passe pas. Ouais. Et c'est quand ça passe pas que ça devient un problème de santé publique, puisque ça peut être un facteur de risque de développer des troubles du comportement alimentaire par la suite.
Alors, Audrey, vous êtes toujours avec nous, Audrey Zucchi. Un enfant doit manger comme un adulte ou pas? Alors, c'est plutôt pas, j'imagine, mais quelle est la répartition, en tout cas, pour un enfant, on va dire, aller de 6-7 ans, par exemple? En termes de glucides, de lipides.
En fait, un enfant de 6-7 ans a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, la moitié de son alimentation va être constituée de glucides. L'idée étant quand même que ce soit des glucides, en fait, qu'il va pouvoir intégrer avec pas mal de fibres. Et à peu près 40% de lipides qui vont être très importants pour développer, en fait, son cerveau. Et puis, 10% de protéines, hein, 10% de protéines animales ou végétales sans problème.
On rappelle que les glucides, ce sont les sucres. Bon, donc plutôt des bons sucres. Et les lipides, c'est tout ce qui est gras, hein, plutôt, c'est ça?
Exactement.
Alors Audrey, c'est quoi le meilleur petit déjeuner selon vous?
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la journée, notre corps, il est en mode pilotage automatique. C'est-à-dire que le corps sécrète un certain nombre d'hormones qui vont en fait venir accompagner des réactions physiologiques. Donc le matin, on sécrète du cortisol, de la noradrénaline, qui vont nous permettre en fait
de nous mettre en alerte, de nous réveiller
pour la journée.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Et où du coup, le meilleur petit déjeuner, ben, c'est celui qui va nous permettre d'apporter pouvoir potentialiser toutes ces hormones dans notre corps. Donc, on va essayer en fait d'avoir un petit déjeuner qui va se baser en fait sur d'abord s'hydrater, parce que ça va faire 9, 10 ou 11 heures que l'enfant n'a pas bu. Donc, c'est très important en fait pour que le cerveau fonctionne bien. Ensuite, pas trop de glucides, parce que le matin, le corps est très sensible à l'insuline. Et puis, on va accompagner la sécrétion de dopamine, de noradrénaline avec des protéines.
Mais ça donne quoi en termes d'aliments concrètement? Voilà, un œuf, d'accord.
Alors, ça peut être un œuf, ça peut être un yaourt de brebis, du fromage blanc, on peut avoir un petit lait au soja chocolaté.
Tout ça, moi, mes enfants, ils n'aiment pas du tout. Hein. Il y a, dans les céréales, par exemple, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Que si je leur dis brebis, ils vont faire berk, soja, berk. Donc, je ne sais pas trop là.
On peut avoir des petits cookies faits à base de flocons d'avoine, pour le coup, avec des petites pépites de chocolat. On peut manger effectivement des fruits secs, des amandes, sans problème. On peut aussi faire des gâteaux, hein, réalisés à base de farine ou de purée d'oléagineux. Ça va être très bon pour eux aussi. Les crêpes ou les pancakes à partir de farine de lupin, de coco, de pois chiches, sans souci, oui.
Bon, d'accord, c'est le petit-déj, Audrey, mais à 4 heures au goûter, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Le chocolat, on peut quand même, c'est bien à cette heure-là, non?
Et c'est même carrément conseillé à cette heure-là. Hein. Ah. Le goûter, en fait, c'est ce qui va permettre aux enfants de reprendre de l'énergie après une après-midi d'apprentissage. Donc, il faut absolument des glucides, des encas sucrés. Et pour le coup, l'après-midi, effectivement, on va aussi pouvoir préparer une soirée calme en accompagnant en fait les hormones, la sérotonine, c'est l'hormone du calme, et la mélatonine qui va intervenir plus tard, qui va être l'hormone du sommeil. Donc à partir de ce moment-là, bah, le soir, enfin en tout cas au goûter, on va proposer des cookies, on va pouvoir proposer une banane, ça qui va vraiment accompagner ces hormones-là, des oléagineux, des produits laitiers, on peut faire ou des rochers coco, vous voyez un petit peu les bounty faits maison, ça aussi c'est super bon pour eux. Ouais.
Docteur Lafrère, on sait tout ce qu'on vient de dire. Là, quand elle a dit cookies, pancake, rocher coco, tout ça, ça nous parle et ça parle à nos enfants et aux bébés surtout. Pourquoi les tout petits comme ça ont une appétence pour le sucre on l'explique ?
Oui, on l'explique tout simplement par l'évolution. Votre cerveau est câblé pour aimer ce qui est important dans la vie, c'est-à-dire le sucre et le gras. Parce qu'il fut un temps, c'était très adaptatif, comme ils disent, de réagir positivement à ces stimuli-là. Alors évidemment, ça c'était vrai pour les chasseurs-cueilleurs, mais dans un environnement alimentaire tel qu'on le connaît maintenant, cette préférence pour le sucre et le gras peut engendrer certains problèmes.
Oui, mais docteur, est-ce qu'on est câblé, est-ce que les enfants sont câblés pour aimer les légumes ? Parce que ça aussi, c'est pas évident. Vous dites que ça, en fait, ça se passe pas dans la cuisine, mais dans la tête, les légumes. Alors ça, j'ai du mal à comprendre. Vous avez même une étude où des chercheurs ont montré des images de carottes et de poireaux à des tout petits. C'est quoi les résultats ?
Alors, je...
Ils ont vomi immédiatement après les images.
Ils ont pas vomi. Je vous ai dit qu'on était pré-câblé pour aimer le sucre et le gras, mais on est aussi câblé pour vraisemblablement pour se méfier des plantes.
Ah oui.
J'ai des collègues qui travaillent avec des bébés. Quand on leur présente des plantes par rapport à d'autres objets, on s'aperçoit qu'ils en ont les jetons, quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent du temps avant de toucher les plantes.
D'accord.
Et ça fait super peur en même temps,
brocoli,
je suis d'accord.
Le brocoli fait peur.
Alors donc que la frite est rassurante.
Exactement. Et donc ça pourrait persister sous la forme des rejets alimentaires dont on parle dans le livre, qui ciblent principalement les fruits et les légumes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des barrières sensorielles, déjà c'est amer, les enfants n'aiment pas l'amertume, ça ne fait pas partie du câblage pour lequel on est fait. Mais il y a aussi une méfiance innée envers les végétaux. D'accord. Et les psychologues pensent que c'est un mécanisme de protection parce qu'il fallait se méfier des plantes à une certaine époque.
Donc en gros, on a peur des brocolis, par exemple, parce que la forme et la texture peut avoir un impact sur les préférences des enfants. Mais alors comment, s'il vous plaît, comment on les arnaque pour faire manger des brocolis ? On n'a qu'à changer sa forme et là, ça va marcher. Pour le brocoli, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors mon conseil, c'est de ne pas les arnaquer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter
Je suis partie dans l'arnaque direct.
Il faut arrêter les leurres alimentaires.
Moi, je cache des brocolis sous plein de pâtes, en fait. Et après,
La stratégie du camouflage, on en discute dans le livre, c'est pas conseillé non plus, parce que si vous avez un enfant avec des difficultés alimentaires, de toute façon, les mélanges, il va les rejeter. Il vaut mieux plutôt présenter différents aliments, appréciés, d'autres inconnus, maintenir un espace entre ces aliments-là pour faciliter la reconnaissance et donc l'acceptation, puisque généralement, dans le domaine alimentaire, on aime ce qu'on connaît et on rejette ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut d'abord envisager l'alimentation comme un espace d'apprentissage, présenter sans contrainte ni pression les aliments, éviter les stratégies de camouflage, et en principe tout va bien se passer.
Bon, faites surtout pas comme moi.
On a tous fait comme vous, Mélanie. Un autre moyen de faire aimer les légumes à nos enfants, c'est de faire des associations entre aliments. C'est ce qu'on appelle le food pairing. Comment ça marche ? Et par exemple, est-ce que je dois associer pour faire aimer les betteraves à ma fille ? Je sais pas, moi, Mélanie, elle a une petite fille, elle aime pas les betteraves, votre fille.
Audrey Zucchi, qu'est-ce qu'on fait alors avec ce système-là d'association entre aliments ?
Ah ben c'est super, justement, en fait, la betterave, ce qui est génial, en fait, c'est que effectivement c'est un aliment qui est pas toujours aimé par les enfants, sauf que on va pouvoir lui associer des aliments qui vont pouvoir rehausser, casser un petit peu le côté terreux. Par exemple, associez-y de la framboise, ça va encore accentuer la jolie couleur de la betterave. Vous en faites une jolie purée avec de la framboise, ou vous faites une salade de betterave en cube froide avec un condiment à la framboise. Et là, pour le coup, vous allez avoir un côté terreux qui va être complètement cassé. Mais effectivement, il peut y avoir d'autres associations. On va pouvoir avoir des associations qui vont être plutôt crémeuses. C'est-à-dire qu'on peut y associer du yaourt, du fromage de chèvre. On peut y associer du bacon. On vous propose comme ça, sur un certain nombre d'aliments, en fait, plusieurs associations dont elles sont reconnues comme étant des exhausteurs de goût ou, en tout cas, des modificateurs de goût qui vont permettre à l'enfant de plus apprécier cet aliment. Là. Non, mais ça, c'est sans pour autant effectivement le dénaturer, parce que c'est important qu'ils le reconnaissent pour apprendre in fine à l'aimer. Mais ne vous découragez pas, parce que vous savez, au bout de plusieurs présentations à l'enfant, il finira forcément, et ça c'est la science qui nous le dit, par aimer l'aliment.
Vive les betteraves.
Pas de découragement alors.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin, et surtout pour cet éclairage sur l'alimentation des plus jeunes et sur les méthodes qui fonctionnent vraiment pour leur faire avaler enfin des brocolis et des betteraves, terminer les grimaces à table normalement avec tout ça. Enfin, on va essayer de tester ça à la maison avec Mélanie et on vous dira.